tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Radio Grenouille.
Contexte.
Contexte.
Contexte. Une émission proposée par Radio Grenouille et Comme un acte. Retour sur les spectacles du Festival Parallèle, discussion avec les artistes, contexte de création et de production. En direct et en public, au studio de la Friche Belle de Meaux.
Contexte, en direct sur le 88.8.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 ou vous l'écoutez en stream sur le site radiogrenouille.com. Et bienvenue dans cette émission spéciale autour du Festival Parallèle, une émission en public et en direct au studio de la Friche Belle de Mai. Le Festival Parallèle se déploie depuis le 29 janvier au Théâtre du Merlan, mercredi, au Théâtre de la Joliette, jeudi et ce soir, à la Friche Belle de Mai et demain au Clap Maison pour la Danse. Un festival proposé par Comme un acte, où se donnent à voir les créations d'artistes émergents dans le champ du théâtre, de la danse et de la performance des artistes français, mais aussi brésiliens, italiens, grecs et des États-Unis. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour discuter avec quelques-uns des artistes et comprendre avec eux les contextes géographiques, politiques, affectifs dans lesquels ces créations émergent. Une première demi-heure avec au plateau Arnaud Sori, un artiste marseillais qui a présenté I'm a Love Result, Eleanor Bauer. On a pu voir Big Girls to Big Things hier au Théâtre de la Joliette. Eleanor Bauer est américaine et Mélanie Masson nous accompagnera d'ailleurs pour la traduction. Argiro Chiotti, pour la compagnie grecque Vassistas, nous rejoindra également et nous entendrons Volmir, qui donne à voir ce soir à 19h30, Ciel, un solo au petit plateau de la Friche. Et puis, en seconde partie d'émission, Gérard Mayen, critique dans sa mouvement, Charlotte Imbeau, critique scène, et Amandine André, pour la revue La Vie Manifeste, échangeront leur regard critique sur les spectacles qu'ils ont vus depuis l'ouverture du festival.
Je donne un surnom à ma partenaire. Mon petit Lu, mon nougat, mon loukoum, mon lustucru, ma colombe, mon nounours, mon ours, mon lapin, mon chat, mon petit chat, mon chaton, ma petite chatte, mon loulou, ma louve, mon loup, ma chouette, mon canard, ma cerise, ma framboise, mon gâteau, mon abricot, ma lune, mon étoile, mon soleil, mon coquelicot, ma rose, ma tulipe, ma pensée, mon bébé, mon cœur, mon trésor, mon mignon, ma douce, ma chérie, mon doux, mon amant, mon amour. Je veux souffrir par amour, et même jouir par amour. Je jetterai des fleurs devant ton trône, je n'en manquerai pas une, sans les feuiller pour toi. Et en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une chose aussi joyeuse? Je t'aimais tant
plus fort,
je t'aimerai. Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines. Et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Je t'aimais tant, je t'aimerai. Oh, comme au premier jour.
Plus fort.
t'aimais tant, je t'aimerai.
C'est un extrait du spectacle joué hier, un spectacle d'Arnaud Sori, joué pardon, au Merlan, mercredi 29 janvier, I Am Love Result. Arnaud Sori, bonjour.
Bonjour.
Je disais, prononce mal sans doute, I Am Love Result, et une petite traduction, cela veut dire aussi, je suis un résultat de l'amour.
Ça voudrait dire ça, mais c'est effectivement à l'origine, non, il faudrait dire je suis I'm a result of love, je pense, ce serait plus correct. Mais,
qui donnerait en français
la même chose, je suis vraiment le résultat de l'amour, mais je crois que c'est un vieux barbarisme anglais, même si on ne maîtrise pas la langue.
Alors, l'idée dans ce moment de discussion autour des spectacles, c'est de comprendre un peu comment ils ont été créés, les contextes, donc les motivations. Et j'ai cru comprendre que vous avez travaillé, mené des ateliers dans un centre hospitalier, un centre psychiatrique d'Uzès.
Oui, Macareron, oui.
Et que c'est là que s'est construit la matière pour ce spectacle.
Dans un premier temps, sans que je le sache en définitive. Alors c'est vrai que moi je parlerai plutôt de contexte que de motivation. Le premier contexte, ça a été ce travail d'atelier que j'ai co-réalisé avec d'autres, notamment Séverine Beauvais et Alexandre Maillard, qui sont également sur la création, tout ça au sein à l'époque de la compagnie La Zouze. Et ça, c'est un premier contexte. Et parallèlement à ce contexte-là, on m'a proposé une carte blanche, un format miniature, proposé par l'Officina, qui gère également le festival d'Ansem à Marseille, et qui rejoignait la même thématique, pour aller vite, à savoir le lien amoureux. Et c'est qu'une fois que moi je suis sorti de l'hôpital, une fois que le travail d'atelier s'est achevé, que j'ai eu envie de réunir ces deux projets qui partageaient encore une fois la même thématique.
Le lien amoureux, c'était le sujet de l'atelier que vous meniez dans ce centre hospitalier ?
Oui, tout à fait, c'était en marge d'une création qui s'appelait Liquide.
Alors, en août, vous avez présenté une version solo de cette pièce. C'était une miniature à l'invitation d'Officina.
Oui.
Là, au Théâtre du Merlan, on a pu voir plutôt un duo. Pourquoi cette présence supplémentaire, d'autant plus que je crois qu'il s'agit du lien, du travail sur le lien amoureux, mais sur la thématique aussi de l'absence.
De l'absence de l'autre, oui. Mais ça, c'était une première contrainte, puisque moi, le format miniature, on me l'a imposé en solo, alors que je voulais le travailler en duo. Et qu'on m'a vraiment imposé le format solo, je me suis dit que de cette contrainte, j'allais garder cette contrainte et donc travailler dans l'idée du lien amoureux, dans l'absence de l'autre, puisque on m'imposait d'être seul.
Alors moi j'ai remarqué quelque chose de télévisuel ou du cinéma dans ce duo, des effets de chant et contre-chant, puisqu'il y a comme deux sortes de pièces à l'intérieur de cette même pièce. C'est voulu ce travail autour d'une image plutôt télévisuelle, d'une scénographie plutôt cinématographique ?
Le contexte, c'est aussi le lieu où on se pose pour présenter le projet. Et le premier lieu qui était à Uzès, la chapelle de la médiathèque, curieusement, il y avait une pièce attenante à la chapelle qui était une cuisine et qu'on a choisi de rendre visible. Et cet espace adjacent, cet espace qui est ce second espace, on l'a retrouvé dans d'autres lieux, à Actoral notamment, où il y avait un petit studio de musique derrière le plateau, et qu'on a essayé de retrouver tant bien que mal au Merlan, dans le studio de danse.
Gérard Mayen, qui a vu aussi ce spectacle, est avec nous. Je crois qu'il avait une question.
Oui, alors ce que je vais dire, on peut en retrouver la trace dans les documents diffusés par le Festival Parallèle, où on a repris un petit extrait, un bref extrait d'un texte, d'ailleurs très très bref lui-même, que j'avais consacré, à la miniature donnée dans le cadre de l'Officina cet été, ou Tendance. Et Jacques, cet extrait autour du glissement de genre, on va dire, hein, le fait qu'à des moments, on ne sait plus qui parle à qui, homme, femme, etc., etc. Alors je comprends que c'est sans doute le fait que vous retrouviez, en jouant de l'absence, en assumant cette position solo, du coup, ça y est, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, du coup, le sens glisse beaucoup, Dans ce que j'ai pu recevoir à nouveau donc mercredi au Merlan, où on a vraiment, alors pour le coup, une stabilisation totale, Arnaud Sori, le mec, je dirais vraiment, et
Séverine Beauvais.
Voilà. Avec tout de même, voilà, un glissement de sens manifeste.
Oui, à vous entendre, j'ai l'impression que vous le regrettez un petit peu. Mais moi, cette contradiction, je l'assume pour aller vite. Et c'est vrai que j'ai invité Séverine, qui tarde très tardivement, puisque le solo avait déjà été créé. Et j'ai invité Séverine à me rejoindre sur ce projet. Toujours dans l'idée de l'absence de l'autre, sachant qu'on serait deux au plateau, mais que ça forme un couple de fait physiquement, parce qu'il y a deux présences au plateau, qu'on est côte à côte, sauf que voilà, le couple, il est dans l'image, mais il n'est pas dans l'histoire. Et le glissement que vous soulignez est tout à fait juste, effectivement, que le solo est... Ce que vous avez pu voir apparaître dans le solo ne peut quasi plus exister avec Séverine à mes côtés.
Et du coup, le retour, disons, de cette division homme-femme est donc voulu.
C'est de fait que ça se passe. C'est que je savais que qu'avec Séverine, on allait perdre cette chose. Mais j'ai été, je ne sais pas si j'ai perdu au change, mais disons que ça devient une autre histoire, effectivement. Ça, je suis entièrement d'accord. Oui.
Peut-être un dernier mot aussi sur la voix, votre voix, la manière dont le texte est dit. Il y a quelque chose d'une voix neutre, finalement, qui recherche une certaine neutralité et qui permet aussi de ne pas l'accrocher à un corps. Vous dites que finalement ces mots sont les mots des autres, et donc pour vous cette neutralité c'était quoi, se glisser dans les mots des autres parce que aussi parfois en même temps cette neutralité n'est pas toujours tenue, parfois par exemple vous allez dans le jeu.
Ouais, rarement, bizarrement la marge de manœuvre elle est assez étroite à mon sens en tout cas. C'est vrai que moi je me suis inscrit dans un prolongement d'un travail qui a débuté à l'hôpital, et puis on est sorti de l'hôpital, on y est retourné, on y est ressorti. On en est ressorti, pardon, mais et puis on a écrit d'autres choses à côté. Il y a d'autres histoires, il n'y a pas que des textes écrits en atelier et travaillés en atelier. Mais de tout ce qui a été fait à l'hôpital, moi je voulais m'inscrire dans un prolongement. Et cette idée pour moi, c'était une idée de trace. Et c'est encore une question que je me pose, que ce soit pour le solo ou pour le duo. C'est la grande question, c'est comment s'inscrire après ça. Moi, la trace, elle est visible pour moi, j'ai ce souvenir. Et c'est juste un écho. Voilà, je la porte, mais ça, c'est pas nécessairement visible pour celui qui regarde. Mais moi, je sais que je l'ai, et j'ai peu de marge de manœuvre, dans le sens où je ne suis pas dans un mimétisme. C'est vraiment une histoire de mémoire, ce que moi j'en garde, ce qui me reste, et ce qui m'avait déjà à l'époque, parce que ce projet d'atelier a 4 ans, je pense, qui m'avait marqué tout bêtement.
C'est déjà un travail qu'on avait pu voir d'ailleurs dans le cadre du Festival Actoral en 2012, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Merci Arnaud Sori d'être venu au plateau de Radio Grenouille pour nous dire quelques mots sur ce spectacle. Et nous allons maintenant parler avec Eleonore Bauer.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I am crazy. As you wanted,
Eleanor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous excuserez mon accent hein, quand je dis big girls do big things.
Big girls do big things. Voilà, c'est parfait.
Alors, si on fait une petite traduction, big girls, grande fille, fait de grandes choses. Petite fille fait de grandes choses. Big dans grande fille.
Grand fille fait des grandes choses.
Il y a des histoires comme ça. Un jour, une personne vient vous rencontrer, enfin, vous discutez, et elle vous dit ceci. Eleanor, vous êtes un ours polaire qui danse comme un cygne. Et parfois, un spectacle peut commencer comme cela.
You ask me if that's how the piece began.
Someone come, and then you say, you're a bear.
That happened. Okay. I got that.
That dancing like a swan.
I was there.
What happened there? Okay, you were there, really. Okay. J'étais là.
J'étais en tournée avec Parts, l'école que j'attendais. J'ai fini en 2006 et en 2005, on était en tournée à Amsterdam. Et après, un Dutch guy, very typically Dutch, comes up to me and says, "Can I tell you something about your dancing?" And I don't do an accent well, but he says, "You are as if an ice bear that dances like a swan."
Quelqu'un est venu lui la voir pendant son spectacle et a dit, tu es comme un iceberg qui danse comme un cygne. Ça.
Oui, and he said, like, normalement, les grands sont à la bas, on the back,
au fond.
En arrière.
Les grands sont
et
au fond.
Les petits sont in the front.
Les grands derrière, les petits devant, comme sur une photographie.
Mais toi, tu es you're everywhere. You're with everybody. You do everything. You dance like the little ones too.
Et lui a dit, toi tu es là, tu danses partout, tu danses tout le temps comme tout le monde, les grands comme les petits.
And I don't know what this guy's point of reference was in dance, but it definitely wasn't mine.
Et je sais pas quelle référence avait cet homme-là quand il m'a parlé de cette manière, mais c'était franchement pas la mienne de référence.
And I didn't know if I should be insulted by his, backhanded compliment or whatever, but I decided that it was a very charming image.
Et je me suis demandé si je devais être insultée ou flattée par ce compliment, mais ça m'a plutôt charmée comme image.
So it was this image was among many other impressions that other people have of me that I carried around with me.
Et cette image fait partie de nombreuses et multiples images que les gens ont de mon art et de moi.
Et en fait, le titre, il vient de mon technicien de notre pièce, qui, quand on était en tournée à New York, il a vu un graffiti, you say?
Le même mot en français. Ouais.
Graffiti.
Graffiti.
qui s'appelle « Big girls do big things ». Il a pris un photographe et il me donnait. Et il me l'a donné.
Il me l'a donné.
Il me l'a donné. Vous pouvez me corriger.
Bien sûr, avec plaisir.
Et c'était une autre instance quand j'étais confrontée avec les images des autres à propos de moi.
Dans cette phrase, un ours polaire qui danse comme un cygne, il y a deux références, à la fois l'ours polaire, quand même une espèce en voie de disparition, une espèce menacée, le cygne. Référence aussi à la danse, la mort du cygne. Et donc, il y a quand même une part de mélancolie très importante, n'est-ce pas, dans ce spectacle, Léonore ?
Un peu, oui, un peu.
Un peu beaucoup,
en fait, j'ai fait la pièce quand j'étais un peu disparu, en fait. J'ai eu un blessage très, très mal.
Vous avez été blessé. D'ailleurs, le cygne, je crois qu'il est blessé aussi, n'est-ce pas ?
Oui. Moulot. Mon
mollet
était tiré et je ne peux pas danser. Et c'était en 2009 quand ça passait. And sorry, my French
anglais,
is very bad.
Mais allez-y en anglais.
Mais ça
profitez
va.
De la présence de Mélanie, si vous voulez.
And I had also many plans that had been cancelled. Like I was going to make a piece with a friend, a duet, and she got a job on Broadway in a musical.
Et au moment de cette blessure, j'avais déjà beaucoup d'autres projets, notamment à Broadway. Pas du tout.
Non, j'ai eu des plannings de faire une pièce avec un collègue et elle a pris un job au Broadway.
Ah, à la place de ses projets.
Dans un musical. Donc elle a quitté le projet.
Pour faire Spider-Man.
J'étais là avec le blessage et l'annulation de la première et j'ai eu une rencontre avec le programmateur de la première, la pièce avec l'autre fille. Et j'explique toutes les choses et j'ai dit, je vais annuler la première. Et il a me dire que, ah, c'est dommage parce que votre spectacle a déjà sold.
A déjà été vendu. Déjà toutes vendu. Les places ont été vendues, c'est ça? Non, il a déjà été vendu à quelqu'un d'autre ou...
C'était déjà la plus populaire date de le programme pour la saison. C'était avant the early sales.
Tout avait été vendu avant la date.
Donc, flattery is a very good reason to continue.
La flatterie est une excellente raison de continuer ce que
Donc, j'ai dit, oh, ça va, j'ai des idées pour un solo, je peux faire quelque chose. Et c'était la première fois que j'ai une date et pas des choses qui étaient promis avant. Donc, c'était un peu carte blanche et une opportunité de travailler avec plus d'intuition, je pense, parce que ce n'était pas nécessaire de parler avec des autres, c'était seulement moi dans le studio avec moi-même. Et en face de le disappointment,
de la déception, en face de cette déception,
des choses qui, the things that fell apart, you know, the injury, le blessage, l'annulation de le duo avec my friend et tout ça, je deviens de penser à propos de l'expectation un peu,
les attentes
et qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas danser et qu'est-ce que des autres expect of me,
attendent de moi, qu'est-ce que les autres attendent de moi.
On a des correcteurs hors champ à l'antenne.
D'accord.
Faire vite, Léonore, oui. Parce que le temps
passe.
Et
j'ai des choses à propos de moi. You, big girls do big things. You are an ice bear that dances like a swan. All of these perceptions of me as a big personality or a big person, a big mouth, a big brain, big ambitions, big ideas, whatever. I also wanted to show all of the fragility and the complexity and all of the other degrees below and inside of the larger scale.
Et face à ces perceptions de femme forte qu'on avait de moi, j'ai voulu montrer aussi la face fragile de cette personnalité.
Gérard, je crois que tu avais une question. Gérard Mayen pour Éléonore.
Oui, Éléonore, à un moment de la pièce, vous faites une danse au sommet d'un escabeau, une sorte de danse en vol, extrêmement acrobatique, il m'a semblé. J'ai eu très peur, un petit peu comme on est enfant spectateur au cirque, hein, qu'on a peur quand les acrobates font des choses. Voilà, j'ai réellement eu peur. Je voulais savoir si c'est un moment qui est réellement finalement dangereux, employant un mot simple, mais surtout qu'est-ce que ça peut signifier, si c'est le cas, si c'est dangereux, ce que ça peut signifier effectivement de votre une volonté de défier un risque, éventuellement d'affirmer une certaine, un courage, une puissance, pourquoi pas, vous avez utilisé le mot. Hein.
En fait, c'était la solution de descendre l'échelle dans une manière différente que j'ai le monté. Premièrement, c'était la motivation pour ça, parce que oui, c'est pas possible de faire la même chose. Donc, après monter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Normalement, ce n'est pas trop dangereux, mais hier, c'était vraiment dangereux, je crois. L'échelle était un peu instable, et donc le grimace, c'était vrai.
Amandine.
C'était genuine.
Amandine, une question pour Léonore. Amandine André.
Il y a tout un passage où justement le personnage dit, il énumère une suite d'action et aucune de ces, pour chaque action à chaque fois il est dit il ne s'est rien passé. Mm-hmm. Donc on en a plusieurs comme ça et étant donné qu'il y a quand même une part effectivement de mélancolie dans ce spectacle, je voulais savoir si étant donné qu'on dit que l'art est toujours transformateur du champ, ou qui porte en lui que l'art a la possibilité de changer le monde, de changer le monde. Est-ce que c'est un moment de doute? Et c'est ce qui relance en fait le corps.
Est-ce que vous doutez de la possibilité, doutez-vous de la possibilité de pouvoir transformer le monde par l'art?
As art can transfigure world and transform the world, do you doubt of this way, this power of art to transform the world?
Sûrement, oui. Toujours. Toujours. Je veux bien transformer le monde, mais je ne suis pas sûre qui.
Oui,
qui les gens qui viennent au théâtre viennent pour être changés ou si c'est normalement juste les autres professionnels ou non, c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment la question dans cette monologue. Pour moi c'était aussi tout le solo et à propos de l'échelle. Donc l'échelle sur scène et je monte l'échelle dans
différents niveaux.
Quand je monte l'échelle de ma voix et j'exercise beaucoup toutes les échelles de mon capacité, j'essaie hein. un panel de mes capacités as a performer. Dans cette monologue, j'exercise ou doute ou poser des questions de l'échelle entre les traits personnels et intimes et les traits publics ou grands ou mondial. Donc je commence avec des petites histoires et graduellement agrandiser ou augmenter.
Agrandir.
Il pose des questions de la capacité d'art pour être des choses, mais aussi la capacité de l'individuel.
Individuel et collectif, non, c'est ça.
Et aussi la relevance des expériences personnelles. Si le personnel est vraiment le politique ou pas, ou des choses. Parce que c'est un solo très personnel, et je me questionne à la même temps si c'est relevant pour des autres.
Il y a là aussi une dimension politique. Le Yes We Can échoue, n'est-ce pas, Éléonore? Éléonore, merci d'être venue nous parler un petit peu de ce solo. J'espère que d'autres personnes pourront le revoir. Vraiment, avoir absolument, ça a été joué donc hier au théâtre de la Joliette. Je crois qu'il n'est pas rejoué dans le long du festival. On peut voir quelques courts vidéos sur le site du festival comme un acte. Merci beaucoup, Léonore.
Merci.
J'ai travaillé pendant 3 ans dans une compagnie brésilienne qui s'appelle Lia Rodrigues, où toujours pendant ces 3 ans de travail, la question qui était très importante, c'était la question de l'être ensemble. Et la pièce que j'ai créée avec elle, c'est...
Vous entendez la voix de Volmir, elle est partie comme ça toute seule, c'est un peu de ma faute. Voilà, vous allez entendre la voix de Volmir. Volmir a présenté un solo qui s'intitule Ciel. Il a été joué au Théâtre du Merlan sur le premier soir du festival et puis il est joué ce soir à la Friche Belle de Mai à 19h30 dans le petit plateau. Volmir donc ne pouvait pas être là puisqu'il est en travail. Je l'ai rencontré quelques instants hier et voici les quelques mots qu'il nous a livrés au micro de Radio Grenouille. On l'écoute maintenant, Volmir.
J'ai travaillé pendant 3 ans dans une compagnie brésilienne qui s'appelle Lia Rodrigues, où toujours, pendant ces 3 ans de travail, la question qui était très importante, c'était la question de l'être ensemble. Et la pièce que j'ai créée avec elle, qui s'appelait Pororoca, c'était donc 11 danseurs, tout le temps ensemble, en faisant des trajets, en faisant une écriture des parcours sur le plateau, où on était censé être en contact dans des touchés très différents tous les temps. Et donc j'avais cette expérience très forte d'être ensemble, de travailler dans une favela à Rio de Janeiro, au sein d'une communauté très dépourvue de l'art ou des subventions pour l'art ou des lieux où les gens puissent participer à des événements artistiques.
Cette expérience du solo, Ciel, C'était pour toi la tentative, ou c'est sans doute la tentative de quoi, de danser une communauté en étant seul.
Ouais, et donc quand j'ai décidé de quitter cette compagnie et de venir en France pour faire le master essai au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers sur la direction de Manuel Luin, mon projet, il était conçu à partir de l'idée d'une hypothèse, si c'était possible de faire une communauté avec un seul corps. C'était possible d'exister tout seul et en même temps en étant multiple. Deixa eu te ver, peixe. Peixe. Deixa eu te ver, peixe. Verde, deixa eu ver o peixe. Vi o brilho verde, peixe, prata, peixe. Je trouve que quand on danse, forcément on est en train de théoriser ou de parler des conditions ou des contextes qui produisent la danse dans laquelle on montre. Et donc je ne peux pas non plus parler du ciel sans parler de ces contextes très précis liés à une école, à un départ d'un pays et l'arrivée en France, c'est-à-dire arriver à un autre paysage. Et du coup, ces axes, ils me travaillaient beaucoup. Pendant qu'en même temps, j'ai dû chercher, pendant ces 2 ans de formation, quelle communauté donc j'ai parlé. Parce que ça ne suffit pas de parler de communauté, mais c'est intéressant justement de se poser la question, quelle communauté est faite de quel corps, faite de quels gestes, de quels gens. Et donc, je parle des corps intolérables. C'était justement des corps qu'à un moment donné, j'ai senti un manque terrible en étant à Angers et de ne pas reconnaître des attitudes que je voyais tout le temps à Rio, qui me frappaient les yeux, mais qu'en même temps me soulageaient quelque part, de rencontrer des singularités très, très aliénées, très dépravées, qui faisaient bordel dans la rue et que je reconnaissais pas dans mon nouveau contexte de vie. Et pour ça, c'était fondamental de me dire, attends, c'est quelconque, cette singularité quelconque, ce type de gens qui me manquent sont plutôt des corps intolérables. J'ai commencé à préciser ça. Je me suis dit, je vais jouer avec mon mémoire. Qu'est-ce que c'est que ces manques? Et qu'est-ce qui peut être une fabrique qui mon corps il peut mettre en place pour accéder à ces gestes qui me manquent?
Est-ce qu'on pourrait parler d'un bestiaire?
D'un bestiaire, ouais, on pourrait parler d'un bestiaire, d'un abécédaire, d'une collection, d'une liste aussi. Mais en même temps, je pense que c'est une imagerie peut-être aussi. C'est une imagerie, mais je ne voulais pas regarder des images pour accéder à ça. Je voulais que les images elles puissent sortir de l'intérieur de moi-même.
On va rentrer un petit peu dans la forme même de ce solo. D'abord dire qu'il n'y a pas de décor. C'est le corps seul.
Mon corps est mon décor.
Ton corps est ton décor, exactement. Très peu de lumière.
Ouais. Hein?
En tout cas, pas d'effet de lumière, disons, pas d'effet scénographique de ce côté-là.
Tout à fait.
Et ce corps, c'est un corps fait d'angles, de brisures. Tu parles de rapport aigu avec ce corps. On pourrait peut-être dire un certain expressionnisme, d'une certaine manière. Pourquoi ces formes-là? Est-ce que d'abord, c'est quelque chose qui est venu se construire dans ce solo? Ou c'est quelque chose qui qualifierait, disons, ta gestuelle?
Je pense que j'ai une attirance vers l'excès. Vers les beaucoup, vers les débordements des corps. Ça m'intéresse aussi. Donc je pense ça, ces rapports aigus, très expressionnistes, l'écriture du visage, à la fois risquant d'être très, très théâtralisé, tout ça, ça compose un désir de déborder. Ou alors de parler d'un aspect débordant de ces corps-là. Pas forcément de les montrer, de les imposer au regard des spectateurs, mais plutôt de parler aussi de la difficulté qu'à la fois je trouve qui c'est d'être encore dans ce monde.
Parmi tes inspirations ou tes sources, il y a Le Buteau, Hijikata.
Oui, oui, parmi d'autres aussi. Ouais, Hijikata, c'était justement à cause de Min Tanaka, cet artiste japonais qui était disciple d'Hijikata. Donc c'est une inspiration aussi, tu vois, de lire et d'étudier, de regarder les images. Quand je suis dans les studios, je pense à lui, comme je pense aussi à Valeska Gert, comme je pense même à Lia Rodrigues avec qui j'ai travaillé, ou alors à Latif Alabissi aussi, que c'est un autre artiste qui j'ai une admiration énorme. Et voilà, c'est en même temps que je vais bien basculer ces gens qui ont quand même une notoriété sociale avec d'autres gens qui sont plutôt des anonymes, qui sont plutôt des corps pauvres, sans aucune visibilité.
Volmir au Merlan, ceux qui ont pu voir Ciel au Théâtre du Merlan l'ont vu dans un tout petit espace, avec une proximité très très forte avec le public. À la Friche, là on sera dans une configuration plus espacée, un plateau plus grand, une distance avec le public plus importante. Ce solo pourrait amplement exister dans un énorme plateau et ce corps pourrait complètement évoluer dans cette immensité.
Tout à fait. C'était comme ça que je l'ai prévu dès le départ. Après, bien sûr, on s'adapte à des conditions pour ne pas l'empêcher qu'il circule, parce que j'ai un tel désir de danser que c'est important que je le présente. Mais tel comme je l'ai conçu, c'était d'abord de le présenter dans des espaces géants. Les plus grands, c'est parfait. Combien, parce que c'est toujours ce rapport de proximité et distance, de faire figure tellement proche du spectateur, autant perdre figure en étant très loin. Et donc jouer toujours avec cette composition et cette décomposition de ses corps, de pouvoir l'avoir hyper en face, mais aussi de les perdre, de se distraire de ses corps aussi.
Merci Volmir.
Merci, merci à vous.
Radio Grenouille et Comenact présente Contexte. Plateau radio, festival parallèle. En direct sur le 88.8. Radio Grenouille.
Vous avez entendu la voix de Volmir Cordero, donc, qui présente ce soir 19h30, donc dans pas très longtemps, ce solo Ciel à la Friche Belle de Mai. C'est au Petit Plateau. Vassistas, compagnie Vassistas qui a présenté la pièce Domino, qu'il a présentée au Théâtre de la Joliette jeudi 30 janvier. Cela s'est ouvert sur cette musique. Pour en parler avec nous, Argiro Chiotti, metteur en scène de ce spectacle Domino et de la compagnie Vassistas. Bonsoir.
Bonsoir.
Je crois que vous êtes de la compagnie grecque, je ne sais pas si je l'ai précisé. Une des sources, en tout cas des inspirations de ce qui vous a travaillé, c'est une pièce de Ionesco qui s'intitule Jeu de massacre, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça, c'est vrai.
La pièce ouvre sur un chœur, et sur cette musique, le chœur commence à se décomposer, les uns après les autres chutent, meurent sans doute. Il y a tout un travail sur la destruction, disons, de la filia, de l'être ensemble. Mm-hmm. Est-ce que c'est liée à la situation en Grèce, situation économique, situation politique d'un peuple qui vit une crise et qui est en début possible de, comment dirais-je, de stasis d'une certaine manière.
Forcément. On a commencé à travailler sur cette pièce il y a 2 ans même. Donc on était vraiment au cœur de la crise. C'est bien difficile, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse en Grèce, il faut comprendre que c'est bien absurde et c'est bien difficile pour tous les artistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de l'argent de nulle part. Ça veut dire qu'il faut faire, il faut créer avec rien. Et devant ça, on a pris la décision de prendre la liberté d'agir d'une autre façon, ça veut dire de créer librement. Ça amène une liberté, je pense, ça, dans le sens où on n'avait rien à perdre. Donc on voulait bien sûr, je pense que l'art doit répondre au présent, c'est-à-dire à ce qui nous entoure, à ce qu'on traverse, mais non pas de façon directe. Ça veut dire que la situation en Grèce est si absurde que moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait tous ensemble, c'est d'essayer de faire sortir, d'exprimer ce qui se passe et qu'on ressent par rapport à la crise, justement, et le comment vivre ensemble qui est devant une impasse, justement, un avenir qui est complètement incertain et un présent qui, on a l'impression, qui nous échappe.
Se dessine en même temps, se donne à voir, en tout cas, tout un processus, comme je le disais, désagrégation du corps du peuple, disons, d'une certaine manière, et puis ce que ça engage, c'est-à-dire des conflits internes, des désolidarisations, des luttes à l'intérieur, des formes d'exclusion, d'inclusion, pouvoir, de pouvoir, de logique du Messie, par exemple. Oui. Cela est très présent, disons, dans la logique narrative. C'était important pour vous de tenir aussi une narration, disons, suffisamment aussi claire pour que, quoi, de l'ordre qu'un message puisse être entendu?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur la question justement de la suite et de dominance, c'est-à-dire de cette chose qui nous lie et jusqu'à réaliser jusqu'à quel point on est liés les uns aux autres et que chaque acte, chaque petit pas a un effet sur les autres. Et tous ces aspects politiques, oui, c'est-à-dire nous avons créé un monde qui est enfermé quelque part, on a l'impression qu'il est enfermé quelque part sans savoir où, et qui essaie de vivre, et donc qui traverse justement tout, c'est-à-dire, oui, il cherche à exister, il cherche à avancer, tout en il y a une liaison très forte au passé. C'est pour ça que toute le son du spectacle vient du début de siècle. C'est de vieilles enregistrements, de vieux enregistrements qui viennent de quelque part.
Cette pièce, vous l'avez jouée en extérieur. Oui. Pour ceux qui sont ici au studio de la Friche, peuvent voir des extraits de cette pièce en extérieur. Au Théâtre des Marlans, c'était en intérieur.
C'était sur une terrasse de l'Institut français d'Athènes. Et on voit l'Acropole au bout. Et là aussi, oui, c'était très présent, justement, la question de la chute, parce qu'on était vraiment sur une terrasse, donc on jouait beaucoup avec ça. Mais l'enfermement était bien présent aussi, comme dans le théâtre de la Juliette.
Sur quel corpus, disons, chorégraphique ou théâtral, vous vous êtes inspiré pour trouver cette résolution formelle par rapport au message, disons, que vous aviez là à travailler, ou au sujet que vous avez travaillé? Sur quel type d'inspiration vous étiez, comme par exemple Volmir qui travaillait à partir d'images d'Ijikata, ou comme on a pu le voir Arnaud à partir de cet atelier de centre psychiatrique, ou Léonore qui parlait du signe, enfin de tout. Et vous, votre univers était lequel?
Vraiment aucun, on n'avait aucune inspiration. C'est-à-dire que nous avons commencé juste à marcher. C'est comme ça qu'on a commencé, par un atelier aussi. Et donc je travaillais avec des gens que je ne connaissais pas. Je les ai rencontrés sur scène et nous avons commencé à marcher. Et à partir de ce moment-là, tout le reste est venu après, à partir de la dramaturgie, c'est-à-dire le travail que nous avons fait avec le texte. On a suivi vraiment la dramaturgie, la base de « Jeu de massacre » d'UNESCO, qui est justement, qui part de ça, c'est-à-dire la peur de la fin, la peur de la fin d'une civilisation, d'une société.
Ce spectacle va être rejoué en Grèce ?
On espère.
Vous avez senti une différence de le jouer en Grèce ou de le jouer en France au niveau de la réception, de ce que se joue dans l'échange avec le public ou pas du tout ?
Non, c'était fort en Grèce et en France aussi. C'était fort et c'est, oui, je pense, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que ça, au fond, ça parle beaucoup de l'identité et par rapport à la masse, justement, et de la peur. Ça parle beaucoup de la peur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui touche les hommes.
Vous restez optimiste ?
Bien sûr.
Après la évidemment. Chute, il y a autre chose.
Mais évidemment, mais finir avec l'amour même, finir avec l'espoir, une ouverture, bien sûr.
Arjé Rochotti, merci.
Merci à vous.
C'était le spectacle Domino qu'on vous proposait par la compagnie Vasistas, là aussi. Pour avoir plus d'informations et découvrir des photographies ou des vidéos. Et puis, je rappelle que tous les artistes de ce festival se sont livrés à travers une petite interview, sont livrés un jeu, une petite interview, où ils répondent un peu à quelques questions, justement, des questions de contexte de cette création. D'ailleurs, évidemment, pour cette émission, eh bien, je me suis appuyé sur les paroles des uns et des autres. Donc, c'est vraiment une initiative, je pense, qui est intéressante pour... tenter de, non pas de comprendre un spectacle, mais de l'approcher, disons, et de voir comment il se compose, comment il se fabrique. Merci donc aux uns et aux autres d'être venus. Et nous allons maintenant passer à cette deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire nous allons accueillir Gérard Mayen, Charlotte Imbeau et Amandine André. Eux, eh bien, c'était des spectateurs le long de ce festival, de ces deux jours. Le festival n'est pas terminé, il continue ce soir et continue encore demain. Mais disons, les deux premiers jours, ils ont vu les spectacles dont nous venons de parler avec les artistes et d'autres. Et ils vont nous faire part de leur regard. Et voilà, le temps du changement de plateau, et les voilà installés autour de moi. Rebonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte Imbeau, donc je disais critique scène. Amandine André, bonjour Amandine.
Bonjour.
Revue La Vie Manifeste et Gérard Mayen. Rebonjour Gérard Mayen.
Bonjour.
Vous avez écouté, tout à l'heure vous êtes intervenu, et donc je disais, vous êtes critique dans sa mouvement, la revue Mouvement d'ailleurs. Une revue hein, qui paraît tous les... C'est un trimestriel, bimensuel, pardon.
Oui, tous les deux mois.
Tous les deux mois, voilà. Et là, c'est son numéro 72. Une revue qu'on peut trouver dans tous les kiosques et les bons kiosques. Voilà, c'est cela. Alors, nous étions un peu ensemble, voir quelques-uns des spectacles. Et par exemple, on pourrait commencer par parler un petit peu du premier spectacle que nous avons vu sur ce festival, qui est le spectacle donc, de Volmir Cordero, qui s'intitule Ciel. Ça a été le spectacle qui a ouvert ce festival au Théâtre du Merlan, une salle plutôt chauffée, n'est-ce pas Gérard Mayen, très chaude.
Oui, oui. Elles sont là.
Et c'est donc ce solo qui va être joué tout à l'heure. Peut-être un petit tour de table des uns et des autres sur ce spectacle. Gérard, si tu veux commencer.
Oui, c'est un spectacle que je perçois, moi je reçois un petit peu presque comme un manifeste. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le premier spectacle, mais quasiment, de Volmir. le premier ou le second.
En fait, c'est dans le cadre d'un essai. C'était
oui, donc voilà, au cours de sa formation au CNC d'Angers. C'est d'ailleurs là que je l'avais découvert à l'époque. Et oui, c'est un acte très très fort. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous diffusiez tout à l'heure, l'entretien avec lui. Et je crois que je retiendrai avant tout cette idée de qu'il amène un corps multiple. Ça me paraît extrêmement précieux, ça, dans la danse, cette question. Est-ce qu'un corps est unifié, massif, cohérent, ordonné, hiérarchisé, ou est-ce qu'au contraire, c'est un corps qui se... Est-ce que dans un corps, il y a plusieurs corps, il y a des absences, il y a des hantises, il y a des fantômes, et du coup, il y a des contradictions, des flottements, des incertitudes, de la remise en cause, du tourment. Voilà, donc il me semble, c'est effectivement... Enfin, moi, c'est une pièce qui me touche énormément. Je peux continuer ou j'arrête là ?
Peut-être qu'on va... oui, déjà un premier point, et puis... C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous y voyez laissez voir un certain désordre et pas... pas de l'ordre, quoi, d'une certaine manière. On donne à voir du désordre aussi.
Du désordre, en tout cas, du... de la remise en cause et du doute. Hein, voilà. Je vais dire quelque chose qui m'a peut-être un peu étonné.
Allez-y.
J'aime pas réfléchir en termes de nationaux, ou je sais pas quoi, de civilisation ou quoi, mais je suis toujours frappé par ces artistes brésiliens. Par exemple, la galaxie de la compagnie Lia Rodrigues, où Volmir a travaillé pendant 3 ans. Je suis frappé par l'extrême proximité que je ressens avec eux sur le terrain de, justement, du soupçon sur la représentation, la déconstruction de la représentation, déconstruction du corps, le questionnement de l'image du corps, etc. On est très très proche de tout un travail qui se fait ici. Par exemple, il a cité Latifa Labissi, par exemple, une référence pour lui. Donc je suis frappé par cette proximité, je dirais, des enjeux, proximité intellectuelle, proximité théorique, et sur scène, c'est différent. C'est-à-dire que ces artistes brésiliens ont une incarnation, une présence physique, une forme d'engagement direct d'un corps qu'on ressent vraiment très fort, alors que c'est vrai que sur nos scènes à nous, on a souvent l'impression que pour que ce propos, cet enjeu théorique soit bien senti, ben il faut qu'il y ait la distance, qu'on mette les choses un peu loin, qu'on sente qu'on a beaucoup réfléchi. Et j'aime pas dire ça, ça peut paraître un petit peu populiste ce que je dis, mais enfin, quand même, voilà. Je suis toujours frappé par ce sentiment.
Charlotte ?
Oui, moi, c'est une danse qui m'a... pour reprendre Gérard, qui m'a beaucoup touchée. C'est une intimité qui a parlé mon intimité. Et je trouve qu'elle pose la question du regard. Enfin, plusieurs fois, il y a une frontalité.
Il ne cesse de nous regarder.
Voilà, il nous met en jeu, ou il nous
sollicite.
Voilà. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je regarde ? Regardez ce que vous regardez. J'ai conscience que vous me regardez. Et ça pose vraiment. Il projette comme ça des images qui arrivent, qu'on reçoit et qu'on... C'est vraiment très interactif.
Ouais. Finalement, c'est peut-être aussi une manière d'engager le spectateur dans le spectacle, c'est-à-dire qu'il a à le soutenir.
Oui, c'est ça.
Et qu'il ne peut pas être indifférent.
Et ça, oui. Il y a parfois, il s'abandonne et enfin, ça appelle, moi, mon abandon aussi.
Amandine ?
Effectivement, pour reprendre un petit peu ce qui se passe, on peut toujours se demander pourquoi on va voir la danse. Qu'est-ce qu'on attend de ce moment-là ? Bien sûr, c'est un art de la représentation, mais ça nous dit aussi toujours quelque chose de nous, d'une façon déployée sous microscope. Effectivement, on a un corps plus ancien que le nôtre, dans la lignée historique. On peut même jusqu'à aller le peupler. De la grenouille, du poisson. Nous savons que notre corps vient du fossile, enfin, a une énergie, a un ancêtre fossile qui remue encore quelque part. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge non pas une lignée chronologique, mais le fait qu'un corps se produit, se développe effectivement dans un espace, dans un milieu et à travers ses contemporains. Donc il y a toujours une projection permanente de moi à l'autre et que c'est de cette façon que l'autre entre en moi par ça peut être par mimétisme, mais c'est surtout que le voyant, je l'incorpore.
Je le reconnais aussi.
Je l'incorpore. je l'incorpore et avec toute cette suite de corps, quelque chose d'une grammaire personnelle se développe. D'un accent même. Enfin, c'est ce qui fait sa qualité d'artiste, c'est que toute une gestuelle qu'il a incorporée, effectivement, ça sonne comme un accent par rapport à toutes les formes de corps. Mais je parlais de la question de projection, d'incarnation, incorporation, parce que Eleanor Bauer est aussi carnivore. Enfin, elle incorpore des figures passées.
Alors, on peut ouvrir la discussion sur Eleanor, hein, si vous souhaitez.
De la danse. Donc, je trouvais que Volmir et Volmir Cordero, Ciel, et
Eleanor Bauer
avec Big Girl, je trouvais que ça. On retournait sur la question de ce qu'on projette, la façon dont on incorpore, dont on digère. Et dont on fait la traduction.
Vous voulez rester un petit peu sur Volmir ou on peut garder cette double discussion, Eleanor et Volmir?
Alors moi, je voudrais rester sur Volmir un instant, oui. Même si la discussion double est très intéressante. On va y venir. Je peux y venir aussi. Bon, alors Volmir. Je rebondirai sur cette notion que Amandine amène d'incorporer. Moi, je dirais que tout spectacle de danse, je cherche effectivement à circuler dans le corps du danseur, de la danseuse, et vice-versa, et voir ce qui vient effectivement, ce que je peux en incorporer, ce qui vient circuler en moi. Alors, je dirais... et ce n'est pas une plaisanterie, qu'il y a quand même dans ce spectacle quelque chose de remarquable, c'est la façon dont Volmir Cordero montre ses couilles. Alors, nous avons vu des centaines de spectacles avec de la nudité sur les scènes chorégraphiques depuis plusieurs années, ce n'est pas une découverte, je n'en suis pas bouleversé, mais il se passe quelque chose là quand même d'intrigant dans ce que fait Volmir Cordero. Qui est cette manière d'être habillé et dévêtu à la fois, puisqu'il porte une sorte de culotte de Bermuda, je ne sais pas trop comment dire, de fait plus ou moins transparent, donc on voit tout. Bon. Et de fait, il montre effectivement, à certains moments, il, malgré tout, il se déshabille réellement, il montre effectivement, il engage effectivement bon, ses attributs. Alors, blague à part, dans ce registre de l'empathie kinesthésique, en fait, de fonctionner moi-même avec ça, de recevoir ça, ça m'a amené, je voudrais appeler tout auditeur masculin à plonger en lui et se ressentir lui-même, et ça m'a amené à me rendre compte de ce que je savais déjà, mais enfin, le revivre, le retraverser, par le fait que, on ressent effectivement quand même cette présence du sexe, de l'organe, je veux dire, des organes génitaux, ils sont là, ils sont présents, on les sent, c'est quand même un point de conscience de soi qui est très marqué. Alors on le sent plus que son biceps, c'est là. Bon. Et je vais terminer, excusez-moi, je suis un peu long, mais je pense qu'à partir de là, donc certains en font un étendard identitaire et ont plutôt tendance à porter ça très en avant et bite à l'air, et puis que dans ce cas, il me semble que Volmir m'amène à le ressentir plutôt une espèce de, je sais pas, un élément en plus, un élément à question, un supplément, quelque chose, voilà, et quelque chose finalement du fractionnement de soi, quelque chose qui justement n'unifie pas.
Là par où vient le multiple.
Là par où pourrait venir effectivement le multiple dont on parlait auparavant. Hein, ce corps multiple, ce corps qui fractionne, ce corps qui ouvre, ce corps qui n'est pas homogène, condensé, hiérarchisé, etc. Je voulais le souligner parce que c'est une expérience rare de spectateur
et que c'est,
et ça me semble faire sens.
Oui, et puis que c'est effectivement tout de même les deux points, fort de ce corps, puisqu'il y a la tête, les yeux, le maquillage sur les yeux, et il y a effectivement la volonté à un moment donné de jouer avec ce bas-ventre-là, de jouer avec cette présence du sexe et des yeux. Donc le regard dont parlait Charlotte, le sexe dont tu parles Gérard.
Voilà.
Éléonore, c'était hier. C'était en première partie au théâtre de la Joliette. On est dans une configuration qui est au niveau de l'espace assez proche hein, finalement de celle de Volmir, c'est-à-dire petit espace, quasiment pas de décor. Éléonore, il y a juste une échelle et puis une peau d'ours noire, quasiment pas de lumière. Voilà, c'est ce genre de performance très simple, très, très épurée. Là aussi, il y faisait un peu chaud d'ailleurs, je crois, Gérard aussi. Hein. Les températures ici à Marseille sont plus élevées dans les théâtres.
Non, on m'a expliqué que c'est dû à l'intensité des lumières dans des espaces plus petits. Restreints. Voilà.
Alors, peut-être qui veut commencer, Amandine, quelques mots sur Éléonore ?
Les peaux, tu parlais des...
Oui, en fait, non, mais c'est parce qu'avec le recul, j'ai deux lectures.
T'en choisis une.
Et je suis restée perturbée par toute cette ascension. Donc le fait qu'elle commence par entrer dans une carpette, qu'elle habite cette carpette. Donc moi, j'ai trouvé très beau en fait, rentrer dans cette ours, cette peau, ce tissu de peluche avec lequel on joue, pour ensuite commencer à dire maman, je me fous de ce que maman a à dire, je me fous de ce que grand-mère a à dire. Donc quelque chose qui s'annonce en rupture, donc pourquoi qui rappelle l'enfance de l'art en fait, c'est-à-dire que je romps avec le monde, c'est un moment de pure expérience où je me retire du monde mais pour en créer un. Donc il y a tout un processus de création qui se développe, donc je peux être tous ce que je veux, je peux être un homme, je peux être une femme et je peux être la femme que je veux puisqu'il y a plusieurs femmes et je peux être l'homme que je veux puisqu'il y a plusieurs hommes. Donc elle déroule comme ça en utilisant sa voix, c'est-à-dire en passant des graves qui sont pour l'ancien préjugé genré masculin, jusqu'à monter dans les aigus qui sont, d'après le préjugé genré extrêmement féminin, le féminin absolu qui serait monté en haut de l'échelle, qui aurait tout donné. Et elle arrive à ce moment-là, en fait, à une suite justement de phrases où elle dit... Elle nous énumère tout ce qu'elle a fait, il ne s'est rien passé.
Elle a tout essayé,
il ne s'est rien passé. Ensuite, bon, elle va redescendre, elle fait la danse du cygne, et puis elle disparaît comme ça, sous les rideaux. Ce que je n'arrive plus à comprendre, en fait. La pièce est magnifique, mais ma deuxième lecture sur... Est-ce qu'elle a réussi... à transformer le monde, c'est-à-dire que cette suite où elle nous dit il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, c'est un moment d'humour, mais je peux pas m'empêcher de repartir avec et de me dire est-ce que ce n'est pas la signe de la disparition d'un monde et que plus jamais on ne pourra le changer. Donc on est sur une pièce artistique. Avec bah moi, mon angle en fait, c'est l'art change le monde, l'art est transformeur du champ. Enfin, on change déjà son propre, par son geste artistique, on modifie le champ dans lequel on s'exécute. Puis
Je termine.
Puis ensuite, on change le monde et on change aussi le soi. Donc, par rapport à ces articulations-là, voilà, c'est...
Pour toi, voilà une pièce qui vient, disons, témoigner d'une impossibilité aujourd'hui, et de manière définitive sans doute, de pouvoir transformer le monde, et qu'il n'y aurait sans doute qu'à s'y adapter. Gérard et Charlotte, peut-être en réaction à ce que vient de dire Amandine ou autre chose, Charlotte ou Gérard ?
Moi, je peux.
Gérard Mayen.
Je peux m'inscrire dans un petit peu le rebond de ce que dit Amandine. Je retiens beaucoup tout ce qu'elle a décrit, donc de ce que Eleanor nous fait traverser, une multitude d'états, de métamorphoses, de réincarnations. Voilà, visite toute une gamme des possibles de soi, de l'invention de soi. Et du coup, la question que pose Amandine, à quelle mesure finalement cela correspond à son projet ou pas de changer le monde. Et il me semble qu'à partir de là se pose le problème de le problème essentiel de la question de l'interprétation, la question de l'interprétation dans la performance, c'est-à-dire que, alors qu'on s'entende, je crois très très fortement au talent d'Eléonore, je crois très très fortement à son intelligence, je crois très très fortement à son implication, je ne suis pas du tout en train de prendre des distances immenses avec elle, mais tout de même, il y a bien une différence effectivement entre ce régime de la représentation dans lequel elle est tout à fait et dont elle visite dans toute une gamme possible de métamorphoses, et puis ce qui émane de sa présence effective qui est malgré tout toujours engagée, toujours présente, toujours là sur une scène, de son être, voilà, et qui, à mon avis, est extrêmement unifié, est extrêmement très très différent de Vollmire. On revient au débat avec Vollmire, c'est-à-dire que Eleanor est quelqu'un, me semble-t-il, de très debout, de très unifié, de très puissant, de très...
Gérard, est-ce que c'est...
Et que ça rentre en contradiction, quelque part, avec ce qu'elle nous représente.
Est-ce que ce serait l'insistance, finalement, du jeu qui là serait un peu trop en avant, disons, le jeu prono personnel, puisque
du jeu J.E.U.
Oui, parce Charlotte. Elle a beaucoup de distance et elle opère des glissements. C'est là l'intelligence, c'est qu'elle glisse de peau en peau et elle se met en scène, quoi. Enfin.
Oui, mais son jeu. Alors oui. Attendez, elle est dans le JEU, mais son jeu JEU
il est là,
reste ultra dominant.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et contredit finalement en partie ce qu'elle.
Mais qu'elle ne cesse de mettre à distance par ce glissement, par l'humour, par.
Ouais. Bref, elle est géniale. Elle est géniale, mais en tout cas, si on est d'accord, on en a parlé entre nous hier soir, je crois qu'on peut le relater. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit écoute, c'est pas compliqué, il y en a une qui est quand même yankee. Et l'autre, il est quand même latino-américain.
Non, mais
c'est pas la même position politique dans le monde.
Bien sûr, mais c'est les manières de, disons, raconter aux États-Unis, dans la culture américaine, passent beaucoup, ça s'incarne beaucoup par l'histoire d'un individu. Enfin, je veux dire, toutes les mythes américains, ça passe par l'histoire d'un individu et que beaucoup de choses se jouent là-dedans. Les enjeux là esthétiques sur, effectivement, les espaces géographiques ne sont pas les mêmes et la manière de raconter un récit passe beaucoup, en tout cas aux États-Unis, par la question toujours de l'individu, c'est-à-dire je me suis fait ou je me suis fait ainsi, voilà toujours l'histoire d'un jeu, non ?
Je verrais le spectacle de Vollmire comme un puits, un quelque chose de, on peut, dans lequel on peut rentrer et une intériorité, quelque chose de profond. Et enfin, pour pas dire que le spectacle d'Eléonore est léger, mais est une projection chez Eléonore, ça balance quoi, ça
show off.
Oui, voilà.
Tu dis Gérard?
Show off.
Oui, le show, oui. Vous avez d'autres choses? Et Amandine, tu vas rajouter des choses sur Eléonore Bauer?
C'est compliqué parce que c'est une pièce magnifique.
Oui.
Moi, je reste complètement perturbée par la fin parce que c'est un retour. On est sur un retour au signe et ensuite un engloutissement. Donc.
On n'a pas parlé quand même de quelque chose. On a cru comprendre tout à l'heure à quel point Vollmire a un corps singulier, mais Eleanor aussi. Au regard de son art principal, son art d'ancrage, qui est quand même la danse. Donc elle est big girl. Elle est, disons, elle a, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle a une morphologie qu'on attendrait plus d'une cantatrice, disons, plus ou moins quelque chose comme ça, un peu.
Athlétique, nageuse.
Big girl, oui, ou nageuse, athlétique, un peu athlétique, etc. Et je trouve, alors, ce solo de, qu'évoque Amandine, là, le ballet, quoi, le cygne, je suis profondément admiratif à cet endroit, parce que justement, là, je ne sais absolument pas ce qu'elle veut. Elle est sur un fil. Elle est sur l'histoire du ballet, elle est sur elle-même, elle est sur la grâce, elle est sur, sur une forme de lourdeur, peut-être quelque chose de massif. Elle ne tombe pas dans le burlesque, ça pourrait. Elle est... C'est très étrange. Et moi, a priori, je suis plutôt du côté de ce qui me trouble, ce qui me laisse dans le doute, dans la perplexité, que dans l'évidence. Et là, voilà, là, elle revient elle-même complètement, et dans la représentation complètement. Et là, les contradictions soulevées tout à l'heure se... tendent à se mêler, et c'est le moment, moi, qui me touche le plus.
Radio Grenouille et Comenact présente Contexte. Plateau radio, festival parallèle. En direct sur le 88.8. Radio Grenouille.
Premier soir du festival parallèle, on pouvait voir Démocratie, la création de Maud Le Pladec. Alors, je retrouve mes notes. Donc, c'était au théâtre du Merlan. C'était au plateau, donc pièce de groupe, sur une partition de Julia Wolfi. Quatre batteries sur scène, c'était dans le grand théâtre du théâtre du Merlan, dans la grande salle, je veux dire. Voilà, donc là on sort des formes solo un petit peu, donc voilà, on est dans d'autres dimensions. Il faisait moins chaud, il y avait vraiment beaucoup de monde. Une dimension musicale cette fois-ci très très présente, puisque je crois que le travail de la danse s'est construit à partir d'abord de cette partition qui est la pièce maîtresse de cette pièce. Qui veut en dire oui. Charlotte.
Donc
peut-être.
C'est le quatrième projet de Maud, le Pladec. Et effectivement, elle a d'abord travaillé à partir de la partition de Julia Wolf et de Francesco Filidei, je crois, un de deux compositeurs.
Oui, exactement.
Et donc c'est la question de comment les danseurs interagissent avec la musique. Est-ce que la musique est visuelle? Est-ce que la danse, enfin oui, de visualiser de voir
de voir
d'entendre,
le son.
Ouais, d'entendre et de voir, enfin, de voir le son.
Alors, le rapport entre danse et musique n'est pas un rapport nouveau. On a déjà pu voir des pièces où se jouait ce rapport entre danse et musique. Bon, la manière dont là il est proposé, qu'est-ce qui finalement vous a intéressé ou pas dans ce rapport-là, celui-là, comment il le travaille? Est-ce qu'il le travaille autrement de ce que vous avez déjà pu voir sur ce rapport danse-musique? Charlotte?
Alors, moi, j'ai vu les deux pièces de Maud précédentes, Professeur et Poétrie. Et bon, c'était des pièces plus... pas de groupe, il y avait trois danseurs. Oui.
Et c'était différent, c'est Gérard? Peut-être que tu veux porter.
Charlotte le dise. On n'est pas du tout d'accord.
Non, en fait.
Allez-y.
Charlotte nous dise.
Non, en fait, j'ai été très pendant toute la pièce. Enfin, je me posais les questions donc des connexions. Et c'est vrai que souvent, au début, enfin, jusqu'à un certain moment, le corps venait, enfin, réagissait. Je ne voyais que ça, que la réaction, que le...
À la réaction à la musique.
Oui, voilà. Et puis, à un moment, ces produits, et là, j'ai retrouvé ce que j'avais... Je trouve très intelligent, très, très fort du travail de Maud. À un moment, donc les quatre batteries sont au fond de scène et les danseurs sont face aux batteries. Et là, j'ai vu... Donc, on voit littéralement l'interaction. Et il y a des gestes très minimaux, un lever de bras, mais très fort. Et ce qui fait, et là j'ai vu, vraiment, j'ai vu le son. Et c'est dans cette simplicité-là qu'il y avait.
Parce que c'est vrai que oui, Charlotte.
Enfin, j'étais troublée parce que tout le début, je cherchais, Et les interprètes étaient malmenés un peu par ces batteries. Et...
Oui, parce que la discussion que nous avons eue un peu, c'est vrai, les échanges que nous avons pu avoir étaient un peu de cet ordre, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes, d'une certaine manière, bon, je le dis vite, et puis après, vous simplifierez, vous, au contraire, vous rendrez les choses plus complexes, est-ce que nous sommes face à une danse, disons, libre, ou est-ce que nous sommes face à une danse qui est soit réactive, c'est-à-dire en réaction au son, en après-coup, soit une danse qui est soumise à la cadence des batteries. Donc voilà, il y avait d'un côté, disons, il y a une danse libre qui s'exprime, et puis d'autre point, d'autres regards qui disaient, bah, j'ai pas beaucoup vu de danse libre à cet endroit-là, j'ai plutôt vu une danse...
Danse libre, c'est un terme...
Quand j'ai dit danse libre, une danse, en tout cas...
Affranchie de la suggestion affranchie de la musique.
Exactement.
Voilà. Pas la danse libre, Isadora Duncan. Mm. Alors voilà, moi je suis beaucoup plus indulgent que Charlotte ou d'autres. Pas indulgent, je le ressens très différemment. Je suis effectivement passionné par ce travail de Maud Le Pladec. Elle n'est pas la seule. Hein. On avait d'ailleurs fait avec Charlotte un dossier d'un mouvement là, il y a un an ou deux, un an et demi. Didier Dorvilliers, Olivia Granville, Esther Salamon ont pu travailler, que des femmes d'ailleurs ont pu travailler. Sur quoi ? Moi, ce qui me passionne là, c'est que, grosso modo, quand même, en danse contemporaine, on reste sous l'ombre portée de la paire Cage-Cunningham et cette idée donc qu'il y aurait la clé de la modernité serait la séparation musique-danse. Et cette danse, du coup, affranchie de la suggestion de la musique. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit un peu plus subtilement à ce que c'est la liberté. C'est peut-être. Bon, hein, la liberté, c'est très complexe. Je vous l'apprends. Bref, donc, ce que fait Maud Le Pladec dans ce cas-là, ça peut paraître un peu sacrilège, puisqu'effectivement, elle se rapproche terriblement de la musique. Elle revient à un rapport... elle revalorise énormément la musique, et presque, elle pourrait paraître s'en rendre à nouveau dépendante, on va dire. Et je ne sais pas, je le ressens différemment, du coup, de ce que ressent Charlotte, par exemple. J'ai l'impression que, constamment, s'invente quand même une relation... complexe de lecture incroyablement fouillée de cette musique, de lecture très très proche, mais dont le corps est directement l'opérateur, la plaque sensible de cette lecture, et du coup avec des circulations incessantes où effectivement tout finit par se traiter en volume, en masse, en puissance, et de part et d'autre quand même avec des transactions et des circulations entre les corps des interprètes musiciens et corps des interprètes danseurs. Et je le vois, moi, très vivant. Et notamment, par exemple, ça me produit la chose suivante, c'est que j'écoute énormément la musique pendant toute cette pièce, alors que j'ai plutôt tendance, en vieux cunninghamien, à me boucher les oreilles un peu à la danse, à essayer de garder la musique un peu loin.
Il faut dire qu'elle est très présente.
Voilà. Et alors, du coup, quand même, disons-le, quelle musique ? Une pièce de composition savante, hein, c'est pas aussi la batterie, c'est du rock forcément, de composition savante, donc d'une compositrice new-yorkaise, une femme, après tout, disons-le, hein, par rapport au symbole de la batterie et tout, c'est une pièce considérable, et y a un enjeu quoi, dans cette confrontation. Moi, je marche beaucoup à ça. Bon.
Amandine.
Bah, effectivement, c'est une belle promesse, puisqu'on met plusieurs puissances sur scène, puisque la scène, c'est aussi un lieu où des puissances vont déferler. Donc, de toute façon, celui qui va sur scène et qui ne sait pas qu'il a des puissances et des fantômes sur scène, c'est très dangereux. Donc, Maud Le Pladec sait qu'elle a des puissances, comme les batteries et les danseurs.
Au nombre de quatre.
Quatre batteries, ce qui est énorme. Faut savoir que le son aussi rentre dans les corps et leur pompe de l'énergie. En fait, comme pour un danseur, on a affaire face à soi, on a quelque chose. Ça peut presque être un ennemi en termes. Enfin, pas un ennemi, mais ça prend de l'énergie. C'est quelque chose qui va impacter le corps et prendre de l'énergie.
Alors, face à ces quatre batteries, il y a 5 danseurs. 5, je crois. 4 ou 5. 5 danseurs. 5.
Donc, j'ai juste... Ce qui me gêne, en fait, c'est... Pour moi, en fait, y a, ce qui me gêne, ça me gêne aussi dans d'autres endroits. Ce n'est pas une question scénique. Ce n'est pas propre à ce spectacle. C'est qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a une mauvaise lecture et une mauvaise analyse de ce que doit être l'égalité. Je ne pense pas qu'en faisant danser à tout prix un musicien, on obtiendrait une égalité. C'est-à-dire que la musique. Je n'ai pas la preuve qu'un musicien abandonne ce qui aurait pu être un pouvoir parce que tout d'un coup il se met à aller sur scène.
Je pense qu'il y a cela parce qu'il y a un moment donné il y a des interactions de corps entre les danseurs et les musiciens.
Voilà. Hein. Il y a une interaction de corps, donc les danseurs vont activer à un moment donné les musiciens et les musiciens vont sur scène. Là, je pense que c'est un souci où on est devenu trop soupçonneux de voir du pouvoir partout. Or, là, un musicien, c'est pas quelqu'un qui a du pouvoir, c'est une puissance. Et je pense que la batterie, que les batteries, là, ce sont des puissances. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir.
Tu veux dire que c'est tous les deux recherchent la prise de pouvoir, c'est ça que tu sous-entends ?
Non, il y a une idée qu'il y a toujours à un endroit donné quelque chose qui va prendre le pouvoir. Or, je pense qu'on ne peut pas voir un instrument de musique comme prenant le pouvoir. Surtout avec
Mais tout à l'heure, tu disais bien que les quatre batteries, c'était quatre puissances qui pouvaient potentiellement avoir le pouvoir.
La puissance, ce n'est pas le pouvoir.
Et donc, alors, tu considères que là, en manipulant les musiciens, quoi, ils disent qu'il y a là des lieux de pouvoir et qu'ils les destituent ? C'est cela un peu, de destituer le musicien de sa place de musicien, ce serait le destituer d'un endroit de pouvoir de la musique et pour le faire aller vers
voilà
vers
pour
autre
dire
chose.
Qu'il faut qu'il danse aussi un petit peu, qu'il aille se confronter, ça c'est juste une
ou les danseurs qui deviennent musiciens, parce que c'est aussi le cas un peu dans cette pièce, hein.
Bah, au départ il y a trois batteries en fond de scène et une batterie devant et ils circulent comme ça avec les, on ne sait pas qui est musicien, qui est danseur.
Gérard Mayen qui me fait aussi les signes que me fait Seb pour me donner la temporalité. Il reste donc 7 minutes. Merci Gérard. Avant la fin de cette émission, nous parlons du spectacle Démocratie de Maud Le Pladec. Gérard ?
Oui, rapidement. Le piège évident de cette pièce, c'est de nous enfermer dans un débat extrêmement esthétique. Voilà, parce que c'est très curieux. Moi, je vois et j'écoute et j'entends, je perçois, je reçois tout différemment de ce qu'on me dit, de ce que dit Amandine, par exemple, parce que j'ai vraiment l'impression, pour le coup, effectivement, que la puissance musicale est extrêmement, agissante, se donne quasiment pour elle-même, et que les musiciens ou les danseurs sont quasiment dans un rapport d'être au service de cette puissance-là, voilà, qu'ils l'interprètent corporellement, ou que les musiciens, on les voit peu par rapport à l'image caricaturale du batteur rock. Finalement, ils sont très discrets quelque part. Ils sont vraiment, ils dégagent cette puissance. Ils font travailler cette puissance, de même que les danseurs à qui on peut reprocher d'être un petit peu, peut-être un peu standard, un peu lisse, un peu voilà. Alors, ce que je voulais dire en tout cas pour sortir du débat des sept, c'est que je comprends très mal la note d'intention qui est donnée, qui est extrêmement politique. Sur la démocratie.
Le spectacle s'appelle Démocratie. Oui.
J'avoue que je le vois très peu traité, cet enjeu, sur les enjeux du politique, du communautaire, de la démocratie, etc. Ça, j'avoue que c'est...
Bon, ça arrive souvent. Hein. Enfin, je crois que ça arrive assez souvent que les notes d'intention non, soient un peu décalées par rapport à la forme, soit parce qu'elles ont été écrites en amont, soit parce que, voilà, c'est... Je pense que les spectacles parlent d'eux-mêmes. Si vous le voulez, peut-être quelques mots, puisque effectivement il nous reste maintenant 5 minutes. Quelques mots sur, soit vous souhaitez parler de Vassistas, Domino, soit de l'autre spectacle que nous avons vu, c'est Arnaud Souris, qui a été joué donc au Merlan et qui avait pour titre I'm Love Result. Arnaud Souris, Amandine, Charlotte, Gérard, Amandine. I'm Love Result. Attention, 1, 2, 3. Personne ne veut en parler. Gérard ?
J'attends. Amandine a l'air de réfléchir très fort.
Non, parce on réfléchit, enfin, on discutait beaucoup à chaque fois de d'où on parle, d'où on essaye de penser, d'où on essaye de juger et de construire quelque chose. C'est compliqué pour moi donc de parler de ce spectacle puisque la chose qui m'a frappée le plus, ça a été donc on n'a pas décollé du cliché genre masculin féminin tel et un cliché avec lequel je voudrais en finir en fait.
Notamment la manière. Bon, c'est vrai que ça a été un enjeu de discussion. La manière dont, ici, le corps de la femme est mis en scène et la manière dont le cliché de cette représentation est reconduit dans le spectacle, avec des doutes, sans doute, sur la manière dont ce cliché posé était aussi mis en critique. Amandine ?
Oui, je peux est-ce qu'il faut poursuivre ? Je ne sais pas. C'est qu'à un moment donné, quelque chose, c'est une représentation, une assignation à la représentation que je ne supporte plus. Et une représentation qui domine. Donc, c'est vrai que soit j'accepte, enfin...
Soit tu n'acceptes pas. Voilà, et là, pour le coup, tu n'as pas accepté.
Voilà, c'est un type et jeu de représentation oui, dans lequel voilà.
Sébastien me dit qu'il nous reste 2 minutes. Je crois que Stéphane de l'autre côté au studio de la radio doit maintenant nous entendre au casque puisque va commencer dans 2 minutes l'émission Temps Libre qui est le magazine hebdomadaire de Radio Grenouille. Nous étions en train de parler des spectacles du festival parallèle comme un acte. Un festival qui se poursuit ce soir à la friche Belle de Mai où vous pourrez voir, donc, comme je le disais, 19h30, Volmir Cordero qui présente Ciel. Et puis, ça enchaînera derrière avec Pascal Bongiovanni qui présente Burnout, petit traité lumineux, groupe sans discontinu. Et puis, la soirée se termine avec Voicek, Jean-Pierre Barraud, par la compagnie X-Time, Je n'arrive pas à pleurer, 21h45, et puis la soirée se termine avec un DJ set, 23h30 au restaurant Les Grandes Tables. Merci à Gérard Mayen, merci à Charlotte Imbeau, merci à Amandine André pour ces propos qui vont se poursuivre, se continuer, je pense bien, en dehors de ce plateau Radio Grenouille, qui ont d'ailleurs commencé avant le plateau et qui vont se poursuivre après le plateau. L'occasion maintenant pour moi de remercier remercier Sébastien pour la réalisation de cette émission, de fortement remercier Pauline qui a bien accepté de se prêter au jeu, d'assister Sébastien à la réalisation, pour la projection ici des images au studio de la Friche Belle de Mai. Merci aux équipes techniques de la Friche pour avoir installé aussi ce plateau ici dans le studio de la Friche et merci à l'équipe du festival Parallèle. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Grenouille en podcast, radiogrenouille.com. Et puis pour avoir plus d'informations sur la programmation du festival, www.com-n-acte.com. C'était une émission spéciale autour du festival Parallèle. Et maintenant, Stéphane, je laisse la parole à Stéphane pour l'émission Temps Libre.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.